Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22h30 pour vous parler, bien sûr, de l'actualité du cinéma. Nous avons vu des films, nous avons vu, entre autres, le dernier film de Timothée Chalamet, Marty Suprême. On vous en touchera peut-être un mot tout à l'heure. Nous évoquerons aussi l'actualité du support physique, DVD, Blu-ray, Steelbook. Et bien sûr, nous vous parlerons de musique de film. Alors, l'actualité du cinéma cette semaine, c'est aussi les Césars. Ouais, les Césars, ça sera jeudi soir. Donc, on va regarder ça attentivement. Bon, moi, j'avoue que c'est une cérémonie que je trouve de moins en moins intéressante, surtout cette année, d'ailleurs. Je trouve que il y a pas mal de films que j'ai beaucoup aimé l'an dernier qui ne sont pas nommés. Donc, c'est une petite déception, quand même, en ce qui me concerne. Par contre, il y a quand même des récompenses que je trouve assez parlantes et assez intéressantes. Ce sont les récompenses du Masque et la Plume. Le Masque et la Plume, vous savez, c'est l'émission consacrée au cinéma et à la littérature et au théâtre sur France Inter, une radio concurrente mais néanmoins amie. Et donc le Masque et la Plume remettait hier ses récompenses, les récompenses du Masque en tout cas, c'est-à-dire les récompenses des meilleurs films sortis en 2025. Alors dans la catégorie meilleurs films étrangers, eh bien, le film qui arrive en tête des suffrages, c'est-à-dire donc en fait, c'est le prix des auditeurs, hein, parce que ça est donc le prix des spectateurs quelque part, hein, c'est ça, et c'est pour ça que c'est un prix très intéressant. Donc le prix du Masque a été cette année donné au film d'Olivier Latché, Sirat. C'est le film préféré des auditeurs de France Inter et du Masque et la Plume. Voilà, ça m'a surpris parce que je m'attendais plutôt à L'Agent Secret, le film. Il faut dire qu'il est sorti fin 2025. Donc moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé cette année. Voilà. Après, Sirat, je sais que Laurent l'avait beaucoup aimé. Il en avait parlé dans cette émission. Et donc, c'est le choix des auditeurs du Masque et la Plume cette année. Meilleur film étranger pour Sirat avec Sergi Lopez dans le rôle principal. Et puis, dans la sélection meilleur film français, eh bien, les suffrages sont allés sur deux films. Voilà, cette année, ce sont deux films ex-aequo qui sont récompensés par Le Masque et la Plume, à savoir L'Attachement et puis Dossier 137 de Dominique Moll. Ce sont ces deux films sont arrivés vraiment ex aequo et ce sont les films préférés. Alors là aussi, L'Attachement, je ne l'ai pas vu, ni non plus Dossier 137. Je sais que Laurent a vu également ce film de Dominique Moll, qu'il l'avait plutôt apprécié d'ailleurs. Il en avait peut-être, sur son bémol, je crois qu'il l'avait trouvé peut-être un petit peu scolaire dans son approche, voilà, mais bon. Donc Dominique Moll, d'ailleurs, habitué au Masque et la Plume, puisqu'il avait déjà obtenu ce prix pour Harry, un ami qui vous veut du bien. Voilà, donc, en tout cas, c'est très intéressant, et c'est vrai que ce sont des films qu'on a quand même appréciés l'année dernière. Voilà, donc, et puis, un événement, alors, dans le domaine de la musique de film, on vous en a pas parlé, mais il y a quand même eu un événement intéressant, c'était fin janvier, avec la Maison de la Radio, un concert consacré à Francis Lai, concert hommage, avec l'orchestre de Radio France, dirigé par Jérôme Robotier. Alors, Jérôme Robotier, qu'on connaît, puisque c'est le compositeur du succès Le Comte de Monte Cristo, avec Pierre Niney. Et puis au piano, il y avait un grand de la musique de film, Gabriel Yared. Alors c'est vrai qu'on a regretté, Laurent et moi, de ne pouvoir assister à ce concert. Voilà. Et c'est, en tout cas, c'est une bonne chose que d'avoir rendu hommage à Francis Lai, qu'on associe peut-être essentiellement au cinéma de Claude Lelouch, mais pas seulement, parce qu'on sait que Francis Lai a a eu des succès énormes, notamment dans le cinéma américain, avec Love Story. Et puis, ce film érotique Bilitis, qui a permis à Francis Lai de vendre des millions d'exemplaires, hein, puisque ça a été un énorme succès. Bilitis, musique de Francis Lai, avec des arrangements de Jean Musy, d'ailleurs. On l'oublie un petit peu, mais Jean Musy était aussi associé à Francis Lai sur ce Bilitis de David Hamilton. Moi, c'est une musique que j'aime beaucoup, je ne suis pas le seul à l'aimer. Comme le film, d'ailleurs. C'est vrai que David Hamilton, maintenant, évidemment, il est persona non grata, on n'en parle plus vraiment. Mais si on considère ce film, Bilitis, c'est quand même, en ce qui me concerne, je trouve un très beau film sur l'éveil du sentiment amoureux, les premiers émois. Voilà, donc c'est plutôt bien réalisé. Faut rappeler aussi que le scénario était signé Catherine Breillat et que Henri Colpi était à la réalisation. Voilà, donc concert Francis Lai au mois de janvier, et puis il y aura d'autres événements cette année en termes de musique de film. Au mois d'octobre à Paris, vous aurez droit à un ciné-concert Babylone. Le film de Damien Chazelle, qui sera d'ailleurs ce ciné-concert qui sera dirigé par Justin Hurwitz, le compositeur de la bande originale. Voilà, en attendant, on va commencer notre émission avec une musique de film. Je me tourne vers Laurent, parce que je vois qu'il est aux manettes, là, il s'affaire activement, il a des disques, des piles de disques, on dirait un petit peu Gaston Lagaffe avec ses piles de lettres, sauf que il est pas Lagaffe du tout, Laurent, c'est vraiment un expert de la technique, hein. Rien ne lui échappe, ou presque. Alors, mon cher Laurent, bonsoir d'abord, comment vas-tu?
Oui, bonsoir, foi parfaitement bien. On est, je dirais, gâté en ce début d'année, parce qu'on a vu quand même pas mal de films, des films en plus relativement intéressants. On essaiera de vous les faire découvrir dans les semaines qui viennent, hein, parce qu'on parlera peut-être pas tout ce soir des films fraîchement vus, mais on en a en réserve aussi, hein, parce que voilà, on est des gros consommateurs de films.
Ah bon? Un peu, oui, c'est vrai. juste un truc, parce que ça fait. Pendant 15 jours, là, on a eu les JO, Milan Cortina, hein, voilà, vous avez vu les Jeux Olympiques. Alors, hier soir, par curiosité, que j'ai quand même voulu regarder la soirée de clôture, et il y a eu quand même un moment intéressant, enfin, il y a eu des moments intéressants, c'était plutôt réussi dans l'ensemble, mais au début. Y a un groupe qui est venu sur scène et qui a interprété des musiques de films emblématiques du cinéma italien, bien sûr. Alors, on a reconnu certains titres signés Ennio Morricone, Nino Rota, Stelvio Cipriani. Et le groupe en question, c'est le groupe Calibro 35, qui est un groupe un peu vintage, qui adore la musique des années 70, la funk, la soul. Et ils écrivent aussi de la musique de quelques films et de quelques séries télévisées. Et actuellement, on peut les entendre dans une série télé qui passe sur M6 tous les samedis soirs. Ça s'appelle Blanca. C'est l'histoire d'une jeune femme aveugle qui malgré son handicap aide la police à résoudre certaines enquêtes. Et donc c'est Calibro 35 qui était sur scène pour la première partie de cette soirée de clôture, et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant.
Bah, disons qu'il y avait un survol sur tout l'héritage italien,
et, oui.
Et donc on ne pouvait pas on ne pouvait pas faire l'impasse sur le domaine cinématographique. Ah oui. Et entre autres avec quand même des thèmes imparables concernant Ennio Morricone ou Nino Rota d'ailleurs, c'est des thèmes mondialement connus, et donc
cela dit, j'ai peut-être un petit bémol. C'est les commentateurs, hein, qui est incapable de se taire pendant les morceaux musicaux, quoi. Et même pendant la Marseillaise revisitée à la fin. D'ailleurs, je trouvais que cette façon de réinterpréter la Marseillaise était assez spectaculaire, et ça m'a beaucoup plu.
Après, c'est le problème des journalistes, ils sont extrêmement bavards.
Oui, un peu comme nous, finalement.
Même dans les épreuves, on a du mal à profiter pleinement de l'atmosphère des JO, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à parler un petit peu tout le temps quand même.
C'est ça. Voilà, bon, en tout cas, c'est vrai qu'on a vu comme pas mal de films, et on en garde aussi un petit peu en réserve, mais voilà, on vous en parlera tout à l'heure. Mon cher Laurent, on commence l'émission peut-être en musique. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que c'est une excellente idée.
Allez, allez.
Et on va commencer par une musique de film qui en fait a été composée par un compositeur qu'on a vu assez souvent d'ailleurs en concert pour un film de 1976. Voilà.
Ah,
une très bonne année. Comédie qui a eu un succès phénoménal sur la gastronomie.
Ah. Ah oui.
Film réalisé par Claude Zidi avec Anne Zacharias, Claude Jansac, Julien Guillaumard,
ça se précise,
Coluche et bien sûr Louis de Funès. Ah. L'aile ou la cuisse. Donc la musique est signée par Vladimir Cosma avec un thème là encore extrêmement connu qui n'est autre que le concerto gastronomique.
Ah oui, c'est fabuleux.
Et donc, on va écouter une version qui est totalement inédite. Voilà.
Ah, ça, c'est une bonne idée.
C'est présent sur le coffret, un des coffrets Vladimir Cosma, édité par Larghetto Musique, qui est en fait l'éditeur attitré en général de Vladimir Cosma. Mmh. Et on va écouter, on va commencer par ces deux extraits totalement inédits. Alors il y a un extrait, peut-être si vous connaissez quand même un petit peu le film, si vous l'avez déjà vu quand même assez souvent, un thème qui s'appelle Sukiyuki, qui est en fait le thème lorsque Raymond Bussière et De Funès sont donc dans un restaurant japonais, et donc qui va l'initier, je dirais, à la gastronomie japonaise. Et ensuite, bien sûr, on ne fera pas d'impasse sur ce fabuleux concerto gastronomique dans sa version totalement inédite et qui est présente d'ailleurs sur cet album qui regroupe deux bandes originales de films, L'aile ou la cuisse, et ou une autre collaboration, cette fois-ci, Louis de Funès avec Annie Girardot, dans La Zizanie. Donc pour l'instant, on découvre, enfin on vous fait découvrir, si vous ne connaissez pas, la musique de L'aile ou la cuisse.
la rubrique vidéo dans Cinéscopie. Et bah voilà, on vous parle de l'actualité du support physique. C'est important, il y a de très très belles choses qui sortent en support physique. On le défend, bien sûr. Et pour commencer cette petite sélection, un film d'épouvante, parce que c'est quand même, voilà, ça fait peur. Même si c'est pas un film, enfin, c'est pas un film fantastique, mais c'est un film voilà, qui s'inscrit dans un monde tout à fait crédible. C'est American Psycho. Alors American Psycho, c'est à l'origine un roman de Bret Easton Ellis, et il est adapté ici par Mary Aron. Alors une adaptation qui n'a pas d'ailleurs convaincu totalement Bret Easton Ellis, l'auteur du livre. Mais en fait, en l'état, moi je trouve que le film est assez réussi. Alors, American Psycho, c'est l'histoire d'un golden boy richissime, séducteur, arrogant, et qui s'abandonne à son penchant pour les meurtres en série. Et oui, c'est un serial killer. Et puis, interprété... Voilà, de façon incroyable par Christian Bale, encore une prestation faramineuse. Christian Bale et à ses côtés Willem Dafoe, Chloé Sevigny, musique signée John Cale pour ce film réalisé en 2000. Je crois que le film est réalisé en 99 et sorti en 2000 aux États-Unis. Voilà, c'est un film vraiment magnifique qui vous est proposé dans une très belle édition métal. Avec un Blu-ray standard, mais aussi le Blu-ray 4K ultra haute définition. Donc vous pouvez y aller, l'image et le transfert est magnifique. Et puis il y a quand même pas mal de bonus vraiment dignes d'intérêt, notamment des interviews des acteurs et d'une partie de l'équipe, ainsi qu'un documentaire sur les années 80. Donc tout cela vous est proposé par l'atelier d'image. Donc si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez vous procurer cette belle édition d'American Psycho. Restons dans le domaine du thriller avec cette fois-ci un film turc, The Things You Kill. De retour en Turquie avec son épouse, après plusieurs années passées à l'étranger, un homme découvre la mort soudaine de sa mère et tente d'en élucider les circonstances. Alors ce film a été est sorti en 2024 et il a obtenu le prix du jury et du public au Festival du Polar de Reims. Le Festival du Polar avant c'était à Cognac, puis ça s'est transporté à Beaune, et là c'est à Reims. Ouais. Des villes de vin à chaque fois, hein, bien sûr. Dans The Things You Kill, un film réalisé par Ali Reza Khatami, qu'on connaît parce qu'il avait réalisé les chroniques de Téhéran. Et voilà, il revient qu'un film qui prend son temps. C'est un film d'atmosphère qui développe petit à petit vraiment une dimension un peu étrange, insolite. On est proche des fois de David Lynch, mais voilà, c'est un film voilà qui est parfois aussi un peu contemplatif. Il faut vraiment se laisser saisir par l'ambiance du film pour l'apprécier. Le film n'existe malheureusement qu'en DVD. C'est le Pacte qui vous propose ce film assez séduisant, The Things You Kill. Il n'y a pas de bonus, par contre, ça c'est un peu dommage. DVD qui propose des images globalement satisfaisantes. Je vous conseille la découverte de ce polar réalisé par Ali Reza Khatami. Alors là, un film espagnol maintenant, ce qui est bien avec le cinéma, c'est qu'on voyage dans le temps et dans l'espace. Un film dont qu'on avait évoqué, je ne sais pas si Laurent l'a vu, ça s'appelle Marco, l'énigme d'une vie. C'est un film qui d'ailleurs s'inspire d'une histoire réelle et qui a obtenu les Goya des meilleurs acteurs et meilleur maquillage en 2024. Donc les Goya, c'est l'équivalent des Césars en Espagne, bien sûr. L'histoire, en 2005, l'Espagne découvre que le président d'une association de déportés a inventé de toutes pièces son passé concentrationnaire. Voilà, donc c'est assez fou comme histoire et c'est une histoire vraie, réalisée par Heitor Arregui et Jon Garagno, avec Édouard Fernandez dans le rôle principal. Un film qui, là aussi, ne vous est proposé qu'en DVD. C'est vraiment dommage pour ce film, Marco. C'est Epicentre Édition qui vous le propose. Alors, Là, il y a par contre quelques bonus, notamment des entretiens avec les réalisateurs qui avaient d'ailleurs envisagé de traiter ce sujet sous forme documentaire à l'origine, avant d'opter pour la fiction. Donc, très très bon entretien à découvrir dans ce DVD. L'image est correcte pour un DVD, donc en tout cas c'est la seule façon de découvrir ou redécouvrir ce film, Marco, l'énigme d'une vie. Voilà, moi je vous conseille parce que c'est quand même une histoire tout à fait ahurissante. Alors, je crois qu'on avait évoqué, mais je voudrais comme revenir un tout petit peu sur un très beau coffret proposé par Elephant. C'est le coffret consacré au réalisateur américain Mitchell Leisen, sous-titré Portrait d'un esthète en 10 films. Alors, il y a des films, donc 10 films effectivement dans ce coffret. Il y a un livret de 96 pages également dans ce coffret, vraiment très intéressant, qui permet de redécouvrir ce réalisateur un peu confidentiel et pourtant essentiel du cinéma américain. Je vous conseille notamment dans ce coffret un film intitulé « L'aventure vient de la mer », je crois qu'on l'avait évoqué, ainsi que « À chacun son destin ». Alors pourquoi en particulier ces deux films ? C'est parce que tous les deux bénéficient d'une très belle partition musicale signée Victor Young. Alors, Victor Young qui est un compositeur moi que j'apprécie tout particulièrement, qui est mort en 1956 après avoir obtenu l'Oscar pour sa musique pour le Tour du monde en 80 jours, le film réalisé par Michael Anderson. Alors il est mort en fait, il a pas en fait avant de recevoir l'Oscar, Victor Young. Donc c'est un Oscar posthume finalement qu'il a reçu. Voilà, un talent mélodique incroyable. Alors L'aventure vient de la mer, c'est vraiment formidable parce que d'abord il y a un casting 5 étoiles, John Fontaine, Basil Rathbone. C'est un film d'aventure qui nous plonge dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Une femme aisée tombe amoureuse d'un pirate français. Elle va quitter son mari pour le suivre. Voilà. Donc on aime bien ces histoires romanesques. Voilà. Et puis de toute façon, c'est un coffret indispensable. En tout cas, je ne vais pas revenir sur tous les films, mais vous devez même vous le procurer. Alors, pour l'anecdote, quand même, il y a un film actuellement qui passe en salle qui s'appelle Gourou avec Pierre Niney. Ben, figurez-vous que en DVD uniquement, LCJ Édition vous propose un film intitulé Le Gourou Occidental. Un film qui met en vedette Jean Lefebvre dans ce téléfilm réalisé en 1991 par Daniel Suissa. L'histoire d'un rebouteux populaire qui se voit proposer un contrat mirobolant par un homme d'affaires japonais dont il a miraculeusement guéri le neveu. Bon, c'est sympathique, ça permet de retrouver Jean Lefebvre, à ses côtés Sophie Durin, Philippe Clay, et je trouve amusant de signaler la sortie de ce film à l'occasion, bien sûr, du gourou de Pierre Niney. On n'est pas vraiment dans la même catégorie, mais enfin voilà, ça permet de retrouver cet acteur qu'on a beaucoup aimé, Jean Lefebvre. Je voulais également vous signaler dans le registre de la comédie, alors une comédie sortie l'année dernière, C'était mieux demain, réalisé par Vinciane Miro avec Elsa Zilberstein et Didier Bourdon. Suite à une électrocution, un couple de quinquasses se retrouve projeté de 1958 à 2025 et, totalement désorienté, réalise qu'enfants et entourage mènent quant à eux une vie contemporaine épanouie. Alors c'est un film qui a pas mal fonctionné au box-office, on va dire, et qui bénéficie de gags qui fonctionne, voilà, c'est pas révolutionnaire, c'est une bonne comédie qui vous est proposée en Blu-ray par UGC avec un master rutilant, voilà, donc là l'image est totalement fantastique. Donc C'était mieux demain, voilà, puis moi c'est vrai que j'ai un petit faible, j'aime beaucoup moi Didier Bourdon quand même, hein, donc je ne peux que vous recommander ce film. Et puis pour en terminer, alors il y a ce coffret Fernandel qui est paru chez Studio Canal, qui regroupe 3 films. Je sais pas, Laurent, tu l'avais peut-être évoqué. À l'intérieur, on y trouve L'Auberge Rouge, Ali Baba et les 40 voleurs, La Vache et le Prisonnier, et La Cuisine au beurre. Voilà, donc il y a, je sais pas,
oui,
tu
en avais parlé, oui, parce que le coffret était sorti juste avant les fêtes.
Voilà, et donc là, on peut que le recommander, surtout par rapport au master, parce qu'en fait, les masters sont quand même de très bonne qualité dans l'ensemble, parce que en termes de menus, il n'y a pas grand chose, et ça, c'est vraiment dommage. Malheureusement, on aurait aimé en savoir davantage, on va dire, sur ces films-là. Et puis j'en terminerai par un Blu-ray édité et chez Malavida, c'est Anna, film musical signé Pierre Koralnik avec Anna Karina, Jean-Claude Brialy, Serge Gainsbourg, musique signée Serge Gainsbourg bien sûr, l'histoire d'un photographe, qui cherche à retrouver la jeune femme qu'il a inopinément prise en photo lors d'un shooting dans une gare parisienne. Voilà, ça date de 1967, et donc c'est tout l'esprit d'une époque qui passe dans ce film, tout à fait pétillant, et qui avait d'ailleurs été, je crois, diffusé sur Arte il y a quelques mois. Voilà, donc en termes de bonus, malheureusement, là aussi, il n'y a pas grand-chose, mais on a en tout cas le Blu-ray de ce film qu'il faut vraiment découvrir avec la superbe Anna Karina. Et puis, alors il y a comme aussi des imports, hein, parce que ça, il y a quand même des choses très très intéressantes qui sortent à l'étranger, et puis qu'on peut se procurer quand même via certaines boutiques, hein, ou tout simplement par Internet, hein, si vous avez l'habitude de commander sur Internet. Et je vous recommande notamment le film Le Territoire des Loups de Joe Carnahan, avec Liam Neeson, Frank Grillo et Dermot Mulroney, un film réalisé en 2011 qui raconte l'histoire des rescapés d'un crash en Alaska qui deviennent les proies d'une meute de loups. Un survival tout à fait spectaculaire pour ce film de Joe Carnahan, qui est peut-être l'un des meilleurs films de son réalisateur. Je vous le conseille. Les images sont totalement somptueuses et c'est édité par Shout Factory. C'est donc un import américain et c'est dans un très beau boîtier métal. Voilà, et des choses intéressantes aussi qui arrivent, comme notamment, je crois que c'est vient de sortir chez Arrow Film, eh bien l'édition ultra haute définition de Excalibur chez donc Arrow Video. Excalibur, le film de John Borman qu'on adore. Et donc c'est ma sélection du jour. Je me tourne vers mon ami Laurent qui va vous proposer aussi les titres qu'il a remarqués. Alors si, peut-être Laurent, puisque j'en ai pas parlé la semaine prochaine, de la semaine dernière, tu vas peut-être en parler ce soir. J'ai vu que finalement Laurence d'Arabie en version 4K était sortie.
Alors il y a une édition, oui, 4K qui est sortie, mais qui n'a pas du tout la même physionomie que celle qui a été sortie il y a juste avant les fêtes, qui était déjà épuisée avant même qu'elle soit sortie dans une très très belle édition métal. Le packaging était vraiment superbe, hein, il faut bien le reconnaître. Et donc là, forcément, l'éditeur SPHE à rééditer, je dirais, enfin, en tout cas, un nouveau facing, nouvelle présentation pour ce film incontournable, ce qui était d'ailleurs impardonnable de sa part de limiter cette sortie qu'à une sortie en édition limitée, oui. Étant donné que ce film est quand même très apprécié et très attendu en France, mmh. Et donc du coup je pense que voilà, il a été quasiment obligé de reproposer en tout cas une nouvelle édition, et donc c'est chose faite, et donc forcément je vous invite à vous la procurer, parce que c'est le problème de ces éditions, même si elles sont pas limitées aujourd'hui, le support physique ne dure pas dans le temps, hein. En tout cas les éditions sont éditées à très très peu d'exemplaires, même si elles ne sont pas limitées, et du coup très rapidement ça reste très difficile après à se procurer. Donc si vraiment vous appréciez le film, il ne faut pas forcément trop tarder en tout cas dans ce registre là pour vous le procurer.
Ça me fait penser que l'édition Blu-ray de Diabolique, on la trouve de moins en moins, hein. c'est parti assez vite, hein. Et ça, c'est le Diabolique de Mario Bava.
Oui. Donc voilà, alors ça fait un peu partie comme dans la sélection, parce qu'il y a un film film hindou de 2015 qui est sorti là aussi juste avant les fêtes, hein, on le doit à l'éditeur Carlotta, qui avait proposé d'ailleurs plusieurs éditions, une édition collector dans une sorte de petit coffret cartonné, et puis des éditions simples concernant ce film. Donc ça s'intitule La légende de Baahubali.
Ah, c'est très très bien ça.
Partie 1 et 2. Donc le premier qui est en fait le commencement, The Beginning, et le deuxième qui est The Conclusion, de la conclusion. Vous voyez que je suis c'est quand même assez bon comme traducteur. Un film d'aventure de S. Rajamouli avec Prabhas, Rana Dagubati et Anushka Shetty, avec une musique signée M.M. Keeravani.
Mais tu sais que j'ai découvert ce film à l'Étrange Festival, à Lyon, et c'est vrai que c'est un film qui en met vraiment plein les mirettes. Et ce qui me fait penser que le cinéma indien ou hindou, on va dire cinéma indien, c'est un cinéma qui, je pense, va... C'est pas moi d'ailleurs qui le dis, forcément, c'est Christophe Gans qui en parle dans Première et dans Mad Movies. Il pense que c'est un cinéma qui va s'imposer un peu comme le cinéma coréen s'est imposé il y a quelques années. Donc c'est
je voilà. Le pense honnêtement parce que ils ont en tout cas les moyens de faire des fresques aujourd'hui, enfin des fresques cinématographiques qu'aujourd'hui les pays les plus en tout cas en vue et en vogue qui en fabriquaient n'en font quasiment plus. Mmh. Et donc du coup, je crois que là c'est une véritable autoroute qui s'ouvre en tout cas à ces pays-là pour proposer des grandes fresques. Et la légende de Baahubali en fait partie parce qu'elle raconte l'histoire d'un jeune homme qui est doté d'une force prodigieuse et donc qui parvient à grimper au sommet d'une montagne où il découvre un royaume âprement disputé. Donc c'est une fresque spectaculaire qui n'échappe pas donc forcément au tic de la mise en scène propre au cinéma indien. Si vous ne connaissez pas, vous le découvrez à travers ce film-là. Enfin, il y a des films qui sont encore plus marquants, en fait reprennent véritablement tous les stéréotypes du grand film indien.
Il y a quand même des séquences qui sont dansées et chantées aussi. Hein.
C'est vrai. Mais on ne peut pas nier que dans ce film-là, l'ampleur des batailles, dont celle d'une quarantaine de minutes qui conclut en fait le premier film, n'a rien à envier au Seigneur des Anneaux, pour tout vous dire. Donc c'est quand même voilà une référence. Et donc vraiment une capacité à faire vraiment du grand spectacle. Et donc on le doit à Carlotta et on s'en félicite parce que c'est des films qui sont totalement inconnus et invisibles surtout. Et donc le support physique est là pour nous rappeler que ce genre de programme existe.
On vous conseille comme d'aller en salle découvrir ces films sur le grand écran avec le public indien notamment, parce que c'est quelque chose.
Oui, parce qu'on a eu quand même...
On a fait l'expérience.
Voilà, on a fait l'expérience alors, sur un autre programme. Mmh. Et en fait, véritablement, il y avait très peu de monde dans la salle, mais on aurait dit que la salle était totalement pleine.
C'est vrai.
Autre film. Alors là, c'est un film d'espionnage. C'est une réédition pour un film mythique, film de 1965, édité par Elephant. C'est l'éditeur qui avait déjà les droits sur la première édition. Donc film de Sidney Fury avec Michael Caine, Nigel Green, Gordon Jackson. Musique signée John Barry, film britannique de 1965. Je l'ai déjà dit, The High Price File, ou High Price, le danger immédiat. Très beau film d'espionnage. Donc je vous invite à le découvrir. Si vous ne le connaissez pas, c'est un film incontournable. Et puis la présence de Michael Caine, couplée à la musique de John Barry, qui en fait constitue l'atout majeur d'un film qui privilégie le côté réaliste de l'espionnage pour un résultat assez palpitant, donc à la mise en image assez singulière et aussi un petit peu tarabiscoté. Donc franchement, ça vaut vraiment le détour, parce que c'est, en tout cas, c'est un film un petit peu expérimental pour l'époque, mais qui est, pour ma part, une véritable réussite. Et qui a bénéficié, en tout cas, d'une très très belle restauration. Donc je pense que c'est un film quand même à, voilà, à bien repérer, et peut-être à mettre en place, en bonne place, en tout cas dans sa vidéothèque.
Je pense que c'est un incontournable du film d'espionnage, parce qu'on se souvient dans ce film, d'abord bien sûr, de la mise en scène de Ciné Fury, ce qui nous rappelle qu'il a été un grand metteur en scène, hein, quand même, faut pas oublier ça, et la musique de John Barry, tu l'as dit, mais voilà, Michael Caine qui apporte sa coolitude, hein, au personnage de Harry Palmer dans ce film. Et d'ailleurs, Yves Kreisfeinds qui a fait l'objet d'un, récemment, je ne sais pas si tu en as parlé, d'une série télé, oui, semble-t-il.
Oui, oui. Hein, d'ailleurs, je crois que la première saison est déjà sortie, ouais, en support physique. Et vous pouvez vous la procurer. Apparemment, en tout cas, une très belle adaptation télévisuelle, assez originale. Donc, franchement, ça vaut là aussi le détour.
Oui, et puis bon, voilà, puis Michael Caine, génial. Donc, moi, personnellement, j'adore ce film. Yves Kreisfeinds.
Alors, autre film, coproduction britannique, australienne, Nouvelle-Zélande aussi, en 2023, pour, en fait, un film. Alors, c'est... peut-être une sorte de retour, je dirais, du metteur en scène. C'est Lita Maori qui propose ce film-là, avec Guy Pearce, Thierry O'Hare, Ngate Melbourne et Antonio De Majoa. un film qui est déconseillé aux moins de 12 ans, qui s'intitule The Convert, aux confins du monde. On est en 1830. C'est l'histoire d'un prêcheur qui cherche à fuir son passé et qui se retrouve au cœur d'un territoire maori en pleine guerre tribale. Et donc, devenu par la force des choses le film testament du réalisateur, son dernier long métrage, qui offre une plongée au cœur de l'histoire de la Nouvelle-Zélande par moments contemplative, à travers donc une attention toute particulière qui est portée donc à la nature, mais aussi aux origines de tensions entre les habitants, entraînés dans des conflits aux enjeux qui les dépassent. Donc c'est une ultime œuvre rédemptrice et sensible, même si parfois elle est quand même assez violente. C'est un film quand même vraiment à découvrir, parce que c'est un thème qui est quand même rarement abordé au cinéma. Et donc, ça vaut vraiment, là encore, le détour d'être visionné. Et on le doit à Condor Entertainment, qui le propose en DVD et aussi en haute définition. Voilà.
Ouais, c'est bien, parce qu'en plus, Lita Maori, on l'a aimé avec L'âme des guerriers. C'est ce film, d'ailleurs, qu'il a propulsé à Hollywood. Hein. Il a fait pas mal de films aux États-Unis avant de revenir, justement, en Nouvelle-Zélande pour ce film. Hein.
Oui, parce qu'il est originaire de Nouvelle-Zélande. Ouais. Et puis, au passage, quand même, Lita Maori, c'est celui qui a réalisé un James Bond.
Il a fait un James Bond, oui.
Meurt un autre jour.
Qui était pas mal, d'ailleurs.
Donc,
il est assez violent aussi, d'ailleurs, celui-là, je crois.
Oui, oui, oui. Ouais. Et je crois qu'il avait fait aussi un film de gangster avec Nick Nolte, qui était vraiment excellent.
Un film,
je me rappelle
noir,
plus le titre.
Oui. Le titre m'échappe aussi, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais.
On reste dans le polar,
oui,
on va dire, avec un thriller, je crois qu'il y a eu du mal à sortir, en tout cas en haute définition, mais cette fois, c'est chose faite. Il était normalement annoncé avant les fêtes, et sa sortie a été repoussée au mois de février. C'est un film de Christopher McQuarrie, avec Benicio del Toro, Ryan Phillippe, Juliette Lévis, musique signée Joe Kramer. Pour ce film des années 2000, The Way of the Gun, pour le film Way of the Gun.
Bah oui, finalement.
Voilà.
T'as de la suite dans les idées.
Oui, vraiment. l'adaptation des titres français sont souvent recèle quand même une recherche assez complexe.
Ouais. Alors c'est bien parce que ça permet de découvrir un Christopher McQuarrie d'avant Mission Impossible alors.
Oui, et qui raconte l'histoire de deux petits truands qui sont prêts à tout pour enlever une mère porteuse travaillant pour un riche homme d'affaires lié à la mafia. Et donc, c'est une intrigue à rebondissement avec la participation active de James Caan et débouchant sur un carnage, hein. c'est le moins qu'on puisse dire, hautement référentiel au grand Sam Peckinpah. Et donc, ça ne peut être qu'assez antipathique quand même, hein, parce que voilà, c'est assez violent. Mais voilà, c'est un excellent polar qui nous est proposé, je crois, par l'Atelier d'Images, voilà, qui a restauré ce film, qui a mis un petit peu de temps, parce que même si le film n'est pas très ancien, voilà, ça demandait le passage en haute définition, qui n'était pas si facile que ça. Et donc là, c'est chose faite, dans une très très belle copie, clinquante, et que vous pouvez vous procurer forcément.
Way of the Gun. Ben voilà, c'est un titre qui claque en plus. Là.
Oui. Je crois qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un coffret qui est sorti à la fin de l'année. Une sorte d'hommage, si on peut dire, même si il nous a pas quittés, mais c'est un coffret qui regroupe, alors pour ceux qui sont vraiment des aficionados de son cinéma japonais, qui regroupe trois films réalisés en 2024, 2017 et un de 2017. Alors il y en a un dont on a parlé, je crois, dans Cinéscopie il n'y a pas très longtemps, avec Damien Bonnard, Ko Shibazaki, Mathieu Almaric. Là par contre c'était une production franco-japonaise pour une sorte d'adaptation de La Voix du Serpent, moi qui ne m'avais pas déplu en tout cas, ce qui n'est pas forcément le cas de la critique professionnelle, mais ça je m'en fous un petit peu.
On assume nos choix.
Voilà. Alors le cinéma de Kyoshi Kurosawa, faut pas s'attendre véritablement du cinéma d'action. C'est vraiment du cinéma d'atmosphère. Il faut vraiment s'imprégner de l'univers, souvent mystérieux, vénéneux. Voilà, ça infuse progressivement et voilà, il faut apprécier l'homme et cette mise en image relativement sombre. Et donc, avec La Voix du Serpent est associé deux autres films. Alors, un qui, de la même année, qu'on avait vu aussi dans Cinéscopie, avec Masaki Suda et Kotone Furukawa et Daiken Okudera. C'est Cloud qui raconte l'histoire d'un cyber-entrepreneur qui devient la cible de clients mécontents. Film assez intéressant là aussi parce que c'est auquel il arrive de vendre des objets sur Internet et qui risque fort d'être traumatisé par le choc frontal imputable à l'intensité parfois exténuante de ce thriller en titane dont l'efficacité qui est à la lisière de la pure terreur qui s'accompagne d'une vision radicale de notre société hyper connectée. Et donc, les autres en ressortiront tout aussi secoués. Ça, c'est en tout cas c'est une belle introspection dans l'univers hyper connecté de notre société actuelle. Et puis, pour en terminer, alors un film qui est assez intéressant aussi, mais lui qui est un petit peu plus ancien, 2017, où on y retrouvait Sometani et Mashiro Higashide, c'est Invasion. Voilà. Alors un film qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui se rend compte que tous les gens autour d'elle se mettent à perdre leurs émotions. C'est quelque part entre le drame, le thriller et la science-fiction. On pense forcément, déjà rien que par le pitch, à l'invasion des profanateurs. Mmh. C'est une intrigue simple, cérébrale, mélancolique et troublante qui n'a pas besoin d'effets spéciaux pour interroger sur la notion d'humanité. Donc souvent ces films sont plutôt une sorte de miroir sur notre société, et franchement voilà, c'est assez étonnant que ce cinéma-là existe, et donc c'est l'occasion en tout cas de découvrir cette sorte de trilogie, si je puis dire, de Kyoshi Kurosawa.
Oui, en effet.
Et on le doit, bah, je ne l'ai pas dit par contre, l'éditeur, si je le retrouve rapidement, eh bien c'est Anabai. Voilà.
Très bien. Est-ce qu'encore une recommandation, cher Laurent ?
Alors,
c'est pas mal. Hein.
Oui, terminer sur un film. En tout cas, j'apprécie dans la filmographie du metteur en scène, film réalisé en 1997. Il y a eu des éditions d'annoncés comme ça limitées, mais en fait, c'était essentiellement des imports. Donc, en fait. Ce qui est sorti en fin d'année, c'est vraiment les éditions françaises, et beaucoup plus abordable que les éditions d'importation, comme vous pouvez le penser. Et donc ça, c'est un thriller aussi, un petit peu comédie aussi. Voilà. On y retrouve, on va faire un petit quiz, Samuel L. Jackson, pardon, un film de 1997. Il y a aussi Robert De Niro.
Ah, alors là, si, oui, j'ai une idée, mais c'est peut-être pas. Ça serait.
Robert Forster.
Oui, ça semble se confirmer.
Et là, je pense que, bon, il y a une actrice, forcément, Pam Grier.
Ah oui, alors attends, ça y est, non, voilà, attends, j'étais parti, je vais dire, j'étais parti sur Pulp Fiction, à vrai dire.
Oui.
Mais non,
c'est pas
celui-là, c'est Foxy Brown ?
Jackie Brown,
pardon.
Jackie Brown, qui raconte l'histoire d'une hôtesse de l'air au risque de sa vie, qui met au point une juteuse arnaque. Et donc c'est un film forcément réalisé par Quentin Tarantino. En tout cas, ça fait partie des meilleurs de ces films. Enfin, toi, j'avais apprécié. Et donc c'est des situations totalement délirantes. Hein, mais alors le film, c'est vrai, est un petit peu bavard, mais voilà, il donne l'impression de regarder un petit peu la radio. Mais franchement,
oui,
on est.
Je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu le défaut du film.
Oui, oui. Mais bon, c'est un petit peu le défaut de Tarantino. Souvent, ouais. Il part voilà dans des tirades qui nuisent un petit peu voilà à la fluidité du propos. Mais en tout cas, voilà, c'est un film mythique, thriller intéressant, édité donc par Studio Canal dans un boîtier métal. Avec en tout cas un très beau facing. Donc je vous invite à vous le procurer si vraiment vous adorez ce film. Il y a eu vraiment une très très belle restauration pour ce film de 97. Donc franchement, ça vaut le détour.
Ça vaut le détour, vu le casting, voilà, formidable. Formidable de retrouver Pam Grier et Robert Forster. Tu parles de Tarantino, est-ce que tu as des nouvelles ? Je sais pas, je sais que Tarantino avait. Remonter ensemble les deux Kill Bill. Il avait fait donc un Kill Bill The Whole Affair.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ces deux films qui sont sortis dans la même salve que Jackie Brown. Donc les deux Kill Bill qui sont sortis dans des éditions aussi métal et qui somme toute aussi
la version remontée de Kill Bill avec les deux, tu sais, les deux associés là ensemble en fait.
Alors là peut-être... par contre c'est deux éditions distinctes.
Ah d'accord.
Qui proposent la version semble-t-il cinéma donc qui avait été proposée en salle. Alors c'est vrai qu'il avait été question d'avoir en fait les deux Kill Bill montés bout à bout, mais
J'imagine que ça va sortir certainement.
Très certainement.
Sur le support physique, oui.
Donc voilà, là encore, dans de belles copies aussi, restaurées par Studio Canal, qui détient les droits pour en fait toute cette série de films. Bah, je crois que voilà, on a fait un petit peu le tour.
C'est pas mal, tout à fait. Et ben voilà, on va faire une petite pause musicale. Il est 21h56 à la pendule de RTF. Vous écoutez Cinéscopie, le magazine du cinéma, de la musique de film. Une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. On est ensemble jusqu'aux alentours de 22h30. Et là, on vous parlait de l'actualité du support physique. Alors, tu parlais de trilogie tout à l'heure. J'ai entendu dire que le troisième volet de la trilogie initiée par Dario Argento avec Suspiria et Inferno, elle est à nouveau éditée en Blu-ray, mais dans une édition UHD. Donc c'est la, je ne sais plus d'ailleurs le titre en français, c'est La Troisième Mère, Mater Tenebrarum. Le film est pas déshonorant, il est un peu inégal, on va dire. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres pas, mais l'autre jour, j'ai re-regardé mon DVD pour voir un peu ce que ça donnait, et c'est vrai que quand même, c'est dommage, je pense qu'il est passé à côté d'un grand film d'Ario Argento là-dessus, mais quand même une belle photo, Asia Argento est sublime. Daria Nicolodi fait une apparition également dans ce film. Voilà, donc il y a des bonnes choses, mais ça va ressortir en UHD très prochainement, me semble-t-il.
Je crois qu'il y a eu une campagne en plus crowdfunding concernant Argento sur en fait des titres qui vont sortir en UHD, mais on vous en dira un petit peu plus.
Oui, je crois qu'il y aura son Dracula notamment. Alors que moi je l'ai pas vu, tu l'as peut-être vu, le Dracula d'Argento. Paraît-il que c'est quand même pas génial, mais bon. Pourquoi pas. À découvrir peut-être.
Ça fait tellement de temps qu'on nous annonce le retour d'Argento, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il revient, on est un peu déçu. Parce que voilà, a toujours pour référence les grands classiques, mais
Occhiali Neri peut-être son dernier, je crois, qui est pas mal. On va écouter un peu de musique, Laurent, alors pour faire une petite pause.
Oui.
Parce qu'on est très bavard, on l'a dit en début d'émission, on confirme.
Là, on va écouter une musique qui j'affectionne particulièrement, c'est un thème qui est imparable. C'est vrai que ce sont souvent des thèmes imparables chez ce compositeur. Pour un film des années 2000 de Robert Zemeckis avec Vince Martin, Nick Searcy, Larry White, Ellen Hunt, Tom Hanks.
Ça serait pas Forrest Gump ?
Pas du tout.
Il m'a piégé, voilà.
Le film est une sorte de huis clos en plein air, si je puis dire.
Ah, mais c'est Seul.
Voilà, Seul au monde.
Seul au monde, exactement.
Castaway, et on va écouter le thème principal qui est vraiment imparable. Alors, c'est vrai que dans le film, il y a très très peu de musique, mais lorsque ce thème revient, à des instants bien précis dans le film, on est subjugué. Il y a vraiment une très grande osmose entre Silvestri et Zemeckis, et là, forcément, c'est encore un très très bon exemple. Et donc, on va écouter le thème principal de Seul au monde. film de la semaine, ce soir.
Aucun autre choix de Park Chan-wook, Les Dimanches, d'Alaouda Ruiz de Azoua, et Nuremberg de James Vanderbilt. Voilà, alors on a vu Marty Suprême, on vous en parlera un petit peu plus la semaine prochaine. Bon, on peut vous dire déjà que c'est un film qu'on a aimé, hein, Marty Suprême, on vous le conseille. Mais voilà, on va vous parler de ces trois films-là, Nuremberg de James Vanderbilt, Les Dimanches, et puis Aucun autre choix. Alors Aucun autre choix, c'est le nouveau film de Park Chan-wook, qui avait été révélé finalement au grand public avec son grand prix du jury pour le film Old Boy, il y a déjà quelques années. Old Boy qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la trilogie de la vengeance, avec Sympathy for Mr. Vengeance et Lady Vengeance. Park Chan-wook qui a réalisé depuis des films vraiment assez variés comme Mademoiselle, Stalker, voilà, des films qu'on aime beaucoup en général. Et voilà, ce dernier film, Aucun autre choix, qui est l'adaptation, une nouvelle adaptation en fait du roman de Donald Westlake, qui avait été une première fois porté au cinéma par Costa Gavras. Ça s'appelait Le Couperet. C'est alors Costa Gavras, d'ailleurs, ça je trouve ça formidable de la part de Park Chan-wook de lui rendre hommage à la fin du film, d'ailleurs, hein. Il y a un carton où il dédie ce film à Costa Gavras, film d'ailleurs coproduit par la femme de Costa Gavras et son fils également. Donc il y a comme une sorte de filiation, d'héritage spirituel, même si évidemment l'adaptation de Park Chan-wook est totalement différente, et ça c'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'on va retrouver quand même un peu comme dans Sympathy for Mr. Mr. Vengeance, vraiment cet intérêt finalement cette pour le chaos du monde. Et notamment, c'est comment finalement le monde du travail va finalement pousser les gens dans leur retranchement, va fabriquer en quelque sorte des monstres. C'était aussi, d'ailleurs on en avait parlé un peu, le thème du nouveau film de Sam Raimi, Sun Help, avec lequel il partage justement quelques points communs. Donc dans ce film, comme dans Le Couperet en fait, un cadre qui travaille dans l'industrie du papier est licencié. Il va donc... c'était un cadre, donc il vit bien, il a une belle villa, il a une famille formidable, ouais, il a tout ce qu'il faut évidemment. Donc il risque de perdre tout ça, donc il lui faut absolument retrouver un travail lui permettant de garder ce standing, voilà. Et il a comme idée d'éliminer, mais littéralement, ses concurrents potentiels. Voilà. Donc c'est un petit peu le pitch du film, hein, qui s'intitule... Donc chez Park Chan-wook, Aucun autre choix. Dans le rôle qu'occupait José Garcia dans le film de Costa Gavras est ici interprété par l'acteur Lee Byung-hun, qui est vraiment là aussi formidable. Donc c'est vraiment une satire du monde du travail, une satire sociale, et tout ça mené, alors ça dure comme pratiquement 2h30, mené de façon ça mélange les genres, ouais, ça mélange. Il y a un côté effectivement dramatique, mélodramatique. Il y a aussi des éléments de comédie, des éléments aussi de cinéma d'horreur. Donc il brasse un petit peu tout ça. D'une certaine façon, ça me fait penser à la comédie sociale italienne, qui était à la fois drôle et très cruelle. On est un petit peu dans cet esprit-là, je trouve, avec le film de Park Chan-wook. Et comme à son habitude, voilà, il y a un travail sur le cadre tout à fait exceptionnel. La photographie est sublime, la mise en scène, le montage, voilà, tout contribue à faire de cette nouvelle adaptation un grand film. Pour moi, je ne sais pas si on peut parler de chef-d'œuvre, mais c'est en tout cas un des grands films de cette rentrée. Et là, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce que... Alors, certains diront que c'est un petit peu outrancier. C'est vrai qu'en sortant de la salle, je discutais avec une spectatrice du film qui avait trouvé que c'était parfois un petit peu too much. Alors, je dirais qu'au regard de la filmographie de Park Chan-wook, qui, c'est c'est effectivement parfois assez violent, mais quand on regarde ses films précédents, bah, ça l'est peut-être un petit peu moins que d'habitude, finalement. Hein. Donc, mais c'est vrai que Park Chan-wook n'hésite pas à aller loin, très loin parfois, mais il le fait... je peux pas vous spoiler, vous décrire les scènes, mais il le fait de façon assez brillante. Donc, je vous conseille cet autre choix. Alors, je sais que Laurent... Tu as vu ce film de Park Chan-wook. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté? Est-ce que tu es d'accord un petit peu avec les éléments que j'avançais à l'instant concernant la mise en scène?
Voilà. C'est un cinéma virtuose. Je crois que déjà c'est ma première chose. Une fluidité, un excellent conteur, une esthétique magnifique, éblouissante. Qu'est-ce que je puis dire? On touche quand même l'excellence avec ce film, même si c'est une sorte de remake, si je puis dire, mais qui s'est totalement réapproprié. Donc, en fait, on est vraiment sur quelque chose, une œuvre totalement unique. Et donc, pour le coup, avec une satire assez cinglante, comme tu le disais, du monde du travail. Qui n'est sans rappeler aussi l'univers Chaplin, mais voilà, avec bien sûr un regard beaucoup plus acéré et contemporain d'aujourd'hui. Et donc du coup, on est vraiment propulsé dans un univers, comme à chaque fois chez Park Chan-wook, qui est vraiment sublime, parce que on sent toujours la maîtrise, la mise en image, la direction d'acteur, le scénario. Tout est vraiment calculé, millimétré et d'une fluidité extraordinaire. Donc, franchement, enfin, moi, je trouve que on touche l'excellence. Je crois que c'est un film qui reste. On va tutoyer le chef-d'œuvre. Voilà. Je pense que dans l'année de 2026, ce film-là sera très certainement en bonne place. D'emblée. Ouais.
Et puis il y a quand même quelques scènes d'anthologie dans ce film, notamment une scène de meurtre totalement délirante, mais on peut pas trop en dire davantage. En tout cas, allez voir ce film. C'est vrai que si vous aimez en plus le cinéma coréen et Park Chan-wook en particulier, je crois que
le bouche à oreille fonctionne très très bien film marche excellemment bien. Ouais. C'est plutôt une bonne chose parce que le cinéma coréen est aussi peut être aussi d'excellente facture et c'est le cas avec ce film-là.
Alors après le cinéma coréen, nous allons nous diriger. Alors je ne sais pas, Laurent, c'est toi qui as le choix des armes en quelque sorte entre Nuremberg, James Vanderbilt ou Les Dimanches.
Alors on va parler du film de James Vanderbilt,
Nuremberg,
avec Russell Crowe, Rami Malek. Et donc là, parce que ces deux films ont à peu près quelque chose près la même durée. Mais là, par contre, on est vraiment aux antipodes de ce que l'on peut faire, en tout cas sur ce registre-là. Le film est totalement raté. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, on a l'impression c'est un film historique. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le placement du film, mais bon, ça recrée un petit peu le jugement de Nuremberg, donc le jugement en fait des hauts dignitaires nazis qui ont été jugés au moment de la libération et de l'armistice. Et du coup, il y a une sorte d'affrontement, en tout cas. Dans le film, c'est ce qui en fait ce qui a un petit peu attiré James Vanderbilt, c'est ce rapport de force qu'il y a entre un avocat militaire et Russell Crowe qui joue en fait l'allemand Hermann Göring. Voilà. Et donc en fait le film se polarise là-dessus avec une sorte de joute franchement qui n'est pas très intéressante on a l'impression que le metteur en scène est parti faire joujou avec la grande histoire et donc il fait bouger ses petits soldats de plomb et puis voilà avec des réparties ça et là, vraiment une sorte de duel verbal, et donc avec un twist final qui relève d'un thriller mal léché et mal fagoté. Et puis on n'y croit pas du tout. Franchement, Russell Crowe en Hermann Göring, ça colle pas.
Oui, ça aurait pu le faire.
Mais là, ça colle pas. Et puis, tant qu'à l'avocat, c'est vrai que je me demande s'il n'y a pas une faute de casting avec Rami Malek, parce qu'on a l'impression qu'il y a une vision, mais c'est pas un jugement, d'ordre physique, hein, mais on a l'impression que c'est une vision de ce fait historique par les yeux d'un Tex Avery. Voilà. Donc, et franchement, c'est quand même très maladroit sur toute la longueur du film. Et alors, il y a quand même une scène qui est extrêmement maladroite. C'est qu'en fait, pour à un moment, donc dans le déroulement du procès, il y a donc un visionnage d'images qui se sont passées, donc l'horreur qui s'est passée dans ces camps de concentration. Et donc c'est un petit peu la même chose qu'il y avait eu pour Joseph Mengele, une scène comme ça un petit peu terrible là, qui reprenait des images d'archives, qui était à mon avis totalement maladroite, en tout cas de la façon dont c'était inséré. Et là c'est pareil, on assiste pendant 3-4 minutes à l'horreur des camps, mais est-ce que véritablement l'horreur est obligatoirement montrable à chaque fois? Tout le monde sait, est-ce qu'elle ne peut pas être suggérée un petit peu comme Schindler, la liste Schindler, comme Spielberg l'avait fait dans ce film-là, qui était à mon avis de vraiment de très haute volée, parce que c'était suggéré, donc ça demande un travail d'écriture assez rigoureux. Là, pour le coup, on a l'impression que le scénario est en roue libre. Et franchement, le film m'a foncièrement déplu sur toute sa longueur. On n'est pas du tout, enfin, je suis pas du tout rentré dans le film, même sachant, l'histoire historique de ce film. Surtout qu'en plus, je pense que à plusieurs reprises, l'histoire a été déformée pour l'adapter, pour montrer quelque chose d'un petit peu plus américanisé dans le cadre du 7e art. Donc franchement, c'est un film très, enfin pour ma part, très anecdotique et qui restera pas dans les mémoires. Voilà.
Oui. En tout cas, c'est un film qui connaît un succès d'estime actuellement. Enfin, il a ses spectateurs. Bon,
après, bon. Après, par le message, peut-être aussi dans la conjoncture actuelle.
Oui, je pense
actuelle,
que c'est par rapport au sujet. Sujet, mais bon.
Mais franchement, sur un plan purement artistique, je trouve que ce film véritablement est pas du tout à la hauteur de son sujet.
Et nous allons maintenant passer au cinéma espagnol avec ce film Les Dimanches. Alors un film réalisé, alors je te laisse donner le nom de la réalisatrice, c'est quand même pas évident.
Oui, je te remercie.
Je savais que ça te ferait plaisir.
Alors, c'est Alauda Ruiz de Azúa.
C'est pas mal, hein. C'est...
avec Blanca Sorda, Sorga, pardon, Patricia Lopez et Juan Winugin. Voilà. Et donc, ça raconte. Qu'est-ce que ça raconte d'ailleurs ?
Mais c'est une bonne idée, ça, de donner le pitch. Il peut y avoir une jeune fille qui veut rentrer en religion.
Voilà, une jeune fille et plutôt une adolescente, parce que c'est aussi un film qui aborde, je dirais, la question, je dirais, identitaire et aussi de la destinée du. Qu'est-ce que, en fait, les pensées d'une adolescente de nos jours, dans la société actuelle. Eh bien, elle a 17 ans, c'est Aniera, et donc Elle a de grands yeux sombres, des joues rondes, une voix d'ange qu'elle exerce sur les bancs de la chorale du lycée et avec un petit air mélancolique. Elle a aussi cette foi en Dieu, en l'Église catholique, qui l'anime autant qu'elle l'interroge et au point de lui inspirer une carrière de religieuse, n'en déplaise à son père, qui est joué par Miguel Garcés, veuf en reconstruction. Dépassée par cette crise d'ado peu ordinaire, à sa tante, farouchement athée et portée par une Patricia Lopez Arnaiz, dont la fièvre sceptique éclipse parfois la jeune Blanca Soros, car c'est bien sur celle-ci, sur la candeur sincère, que se dégage de ses traits juvéniles, que repose cette réflexion contemplative, presque métaphysique. Alors, c'est peut-être aussi ce qui alourdit foncièrement le propos, c'est que par moments, c'est assez contemplatif. Mmh. Et donc, 2 heures de film, je dirais que voilà, il aurait pu y avoir quelques petites coupures ça et là, ça aurait donné un petit peu plus, je dirais, de dynamisme à cette histoire. Et je dirais que le film tient surtout sa mise à jour assez rafraîchissante du sujet, parce qu'on aurait pu penser voilà, que c'est une réflexion purement moyenâgeuse, poussiéreuse, et bien non. Et aussi voilà, l'ouverture et l'angle d'attaque en fait, de ce film, c'est de proposer cette inclination envers le catholicisme, c'est la foi, à travers donc cette vision totalement adolescente. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi en fait l'évolution de la mentalité et des sentiments dans cette nouvelle génération Z, et qui en fait quel est son positionnement par rapport à la foi, à la religion, et c'est ce que met en fait en exergue ce film. Et donc du coup c'est là où en fait l'intérêt est vraiment latent dans ce film. Mm-hmm. C'est cette vision là plus que par rapport, même si le personnage de la tante est très affirmé et très, je dirais, revendicatrice par rapport à la religion et au fait de...
Elle pense peut-être que cette inclination vers Dieu cache quelque chose, que c'est pas...
Voilà, mais c'est loin d'être honnête, que en fait, les représentants de l'Église, quels qu'ils soient, sont tous des menteurs. Mmh. Voilà, c'est un peu grossier comme vision. Un peu brut, je dirais. Et donc, bon, ça peut être intéressant sur le moment, mais bon, voilà, après, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu stéréotypé qui est assez tranché. Mais bon, ce qui, à mon avis, est plus intéressant, c'est ce positionnement de cette adolescente qui choisit mordicus, en fait, cette vocation. Et c'est assez intéressant. Et moi, je dirais que plutôt que le rôle du père est assez intéressant aussi, même s'il est dépassé, au moins, il choisit de laisser en tout cas le choix à sa fille de son destin et de sa vocation, ce qui est plutôt pas mal. Même si il n'y a pas de parti pris dans le film, hein, mais c'est un film assez sensible, assez intimiste sur la profession de foi, et donc franchement, ça vaut le détour. La seule chose, voilà, qui, à mon avis, le point faible du film, c'est ce côté. Moi, ça me gêne un petit peu, surtout quand il n'est pas du tout argumenté. Ce côté contemplatif, au bout d'un moment, voilà, on peut l'utiliser pour recréer une ambiance. Mais lorsque, bon, c'est relativement récurrent, sur 2 heures de film, ça reste par moments un petit peu long quand même.
Voilà. Très bien, mais ce soir, vous avez compris que vous n'avez pas d'autre choix que d'aller voir le film de Park Chan-wook. Aucun autre choix. Formidable adaptation du roman de Donald Westlake. Et puis, pourquoi pas Les Dimanches de Alaouda Ruiz de Azoua. Alors, une réalisatrice d'ailleurs qui avait réalisé en 2021, elle avait réalisé Le Labaï, son premier long métrage, et elle avait obtenu d'ailleurs 3 Goya pour son premier film. Donc ça, c'était encourageant. Et donc, vous pouvez aller voir Les Dimanches. Et puis voilà, Laurent vous a dit que voilà, Nuremberg n'était pas à la hauteur, malheureusement, du sujet. Donc, vous pouvez passer votre chemin, même si vraiment on est intéressé, évidemment, par cette histoire. Et voilà. Et donc, bah, il est 22h26. Je ne sais pas si nous avons le temps de faire une petite pause musicale, parce que sinon nous allons vous parler bien évidemment des films qui vont sortir sur vos écrans ce mercredi. Nous serons le 25-26, c'est ça, nous serons le 26 février, me semble-t-il. Alors quels sont les films qui vont sortir sur vos écrans, quels sont les films que vous allez pouvoir découvrir en salle, parce que le cinéma c'est d'abord en salle, hein, je vous le rappelle quand même, oui.
C'est inévitable. Hein.
Voilà, bon, alors, il y a les plateformes, bien sûr, mais pas que. Et heureusement, c'est surtout en salle. Alors, Laurent, je me tourne vers toi, parce que tu as le programme, j'imagine, des sorties pour ce mercredi.
Oui, alors, on va pouvoir voir, à partir de mercredi, 5 cm par seconde, film de Yoshiyuki Okuyama.
Es-tu le spécialiste du cinéma asiatique, mon cher ami?
On est en 2008, c'est l'histoire d'un jeune informaticien, bientôt trentenaire, qui vit donc une existence banale et monotone à Tokyo. Et donc il se souvient de l'année 1991 et de sa rencontre à l'école avec celle qui devient très vite son alter ego, et donc la vie les éloigne, mais je dirais qu'un lien invisible les unit. Autre film, alors vous avez dû voir la bande-annonce, parce que bon, c'est une comédie d'Emmanuel Patron, c'est Cher Parent. Voilà, avec André Dussolier, Miu Miu, Arnaud Ducré, et donc voilà,
un bon casting.
Oui. Je vous raconte pas le pitch. Hein, je pense que vous le connaissez, étant donné que bon, le film a été extrême. On pourra voir Easy Sing On de Bradley Cooper. En fait, c'est un film dramatique, hein, qui raconte l'histoire du mariage d'Alex et Tess, qui ne tient plus qu'à un fil. Et donc, Alex doit soudain affronter les doutes de la cinquantaine et la menace d'un divorce imminent. Voilà. Autre film, Le Son des Souvenirs.
Ah, précédé d'une réputation flatteuse.
Oui. D'Oliver Hermanus avec Joss O'Connor, Paul Mescal, Chris Cooper, donc il raconte pendant la Première Guerre mondiale deux jeunes hommes, Lionel et David, qui entreprennent d'enregistrer les vies, les voix et la musique de leurs compatriotes américains.
Donc ça a l'air intéressant.
Ensuite, forcément incontournable, en tout cas sur un plan médiatique, eh bien le 7e épisode de Scream.
Ah, bah oui, voilà. Avec le retour de Neve Campbell.
Bah oui.
C'est peut-être pour ça qu'on ira voir le film.
Et
en fait.
Courtney Cox hein, aussi.
Ah oui.
Tout le monde est au rendez-vous, presque.
Bon. C'est Kevin Williamson, j'imagine, à la réal.
Oui.
Ah, bah voilà, en plus, c'est le créateur de Scream.
Donc, pour un film qui aborde les deux heures, donc pourquoi pas. Ça peut être une bonne surprise. Alors, on continue. Là, on va plutôt s'axer, je dirais, sur les films un petit peu d'auteur. Un film de Teresa Villaverde, qui s'intitule Justa. Ça, c'en est en 2017, l'histoire d'une région du Portugal qui est ravagée par de gigantesques incendies qui emportent des forêts entières et des vies. Et quelques mois plus tard, eh bien, un petit groupe de survivants, une petite fille, Justa, et son père, grand brûlé, et donc une vieille femme devenue aveugle, un adolescent qui tente, tant bien que mal, de se reconstruire. Ensuite, nous pourrons voir aussi Orwell 2+2=5. Peut-être pas un titre à retenir, hein, parce que sinon vous n'irez pas très loin, en tout cas dans les différents calculs que vous pourriez faire. On est en 1949, George Orwell qui termine ce qui sera son dernier mais plus important aussi roman. Donc 1984, Orwell, donc 2+2=5, qui plonge dans les derniers mois de la vie d'Orwell et dans son œuvre visionnelle pour explorer les racines des concepts troublants qu'il a révélés au monde dans son chef-d'œuvre dystopique.
Pourquoi pas ?
C'est un documentaire.
Hein. C'est un documentaire, d'accord. Donc, c'est certainement intéressant.
Ensuite, nous pourrons voir Rue Malaga de Mayam Touzani, qui raconte l'histoire de Maria Angeles, une Espagnole de 79 ans qui vit seule à Tanger, dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Et donc sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l'appartement dans lequel elle a toujours vécu.
Oui, c'est peut-être pas mal. En plus, il y a une magnifique actrice dans ce film, donc on ira le voir.
Film dramatique de Saced Roustazé, c'est Woman and Child, qui raconte l'histoire de Manaz, une infirmière de 45 ans qui élève seule ses enfants, et alors qu'elle s'apprête à épouser son petit ami Harid, eh bien son fils Alier est renvoyé de l'école lorsqu'un accident tragique vient tout bouleverser. Eh bien, Malnaz se lance dans une quête de justice pour obtenir réparation.
Film iranien, je crois.
C'est bien possible, oui. Ah, oui. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Alors, des sorties qui seront, en tout cas, visibles sur Limoges. Et donc, je fais un petit peu le tour à nouveau. J'en avais oublié un petit. C'est un documentaire de Hugo Wilcock. Ça s'intitule Un été à la ferme, qui raconte la ferme de ses parents, qui a toujours été un terrain de jeu idéal pour Paul. Et donc cet été, il a 12 ans, il est bien assez grand pour aider son père, qui lui confie certaines tâches, mais aussi ses inquiétudes. Voilà, dans le monde agricole. Donc voilà, cette fois, on a fait un petit peu le tour des nouveautés à partir de mercredi sur vos écrans.
Merci Laurent, et puisque tu parlais de documentaire, je voudrais vous signaler la disparition d'un documentariste, Bruno Vienne, il y a quelques jours. Bruno Vienne, qui était d'ailleurs le fils, me semble-t-il, de Gérard Vienne, et il avait réalisé son dernier film, c'était Rinpoché, l'enfance d'un chef, et ça suivait le parcours donc de d'un Dalai Lama sur plusieurs années de sa vie. Donc Bruno Vienne qui nous a quittés. Eh bien, nous allons nous quitter, nous aussi, puisqu'il est 22h37, mais...
Oui, ben là, exceptionnellement, on va se quitter en musique.
Ah, ben ça, c'est une bonne idée, oui.
Avec la musique d'un film un petit peu tonique, film policier, de 1997. On y retrouvait...
Quelques indices, on aime bien jouer avec toi.
Oui, on va terminer en jouant, tiens, voilà. James Cromwell... Danny DeVito, David Stratern, Simon Baker, Guy Pearce.
Ah, ça y est, je pense l'avoir. Je pense l'avoir. Los Angeles Confidential.
Et voilà. Très bien, parfait, hein, parce que là, c'était pas facile. Kevin Spacey, Kim Basinger et Russell Crowe. Voilà, pour une musique signée Jerry Goldsmith. Et forcément, on va écouter le thème principal. Un petit peu tonique, hein. Et vraiment, si vous écoutez bien, si vous ne connaissez pas Goldsmith, si vous découvrez le monde de la musique de film, eh bien, écoutez bien, je pense que vous allez être marqué par le travail des percussions, là encore, qui est vraiment excellentissime. Allez, on se quitte avec LA Confidential. On vous souhaite une excellente semaine cinématographique. Allez dans les salles obscures. Profitez d'un programme extrêmement éclectique. Il y en a pour tous les goûts et aussi pour tous les jours et même plusieurs fois par jour. Voilà. Allez, on vous donne rendez-vous dès lundi prochain. Même endroit, même heure, même fréquence.
Oui.
On vous laisse en compagnie de Jerry Goldsmith.
Ciao, ciao.